C'est ça, donc je suis allée voir une expo à Bruxelles, à la Fonderie, lundi. C'était très très intéressant, ça s'appelle Gender et War. Et donc du coup, ça m'a donné l'idée de vous en parler, de vous parler du rôle des femmes pendant la guerre 14-18. Alors c'est bien connu, les femmes, elles sont capables de faire tout ce que les hommes font. Et pendant la Première Guerre mondiale, alors que les hommes partent au front, les femmes reprennent les rênes de l'industrie et de la société. En France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, environ 85% des hommes sont mobilisés. En Belgique, par contre, à cause de l'occupation, seulement 20% partent au front. Du coup, c'est plutôt le chômage qui nous met dans la mouise. Les entreprises sont souvent réquisitionnées par les Allemands et la population survit grâce à la soupe populaire et aux œuvres de charité. Donc une bonne partie va également émigrer, notamment en France et aux Pays-Bas. Mais en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, la gente masculine est partie au front. Donc il fallait que quelqu'un s'occupe des champs et des usines, surtout à cette période où on avait besoin de nourrir tout le monde, dont les soldats, et on avait besoin de munitions et de matériel pour la guerre. Du coup, ce sont les femmes qui s'en collaient, le gouvernement glorifiait les soldats, mais aussi encourageait les femmes à se mettre au travail. C'était bien vu par tout le monde, on le faisait pour aider sa patrie, et c'était leur moyen aussi de participer à cette guerre et d'aider leur pays dans une période difficile. Donc on a vu apparaître des femmes pompières, conductrices de tramway, des femmes à l'usine fabriquant des munitions, des masques à gaz, des obus, mais aussi d'autres objets de tous les jours comme du mobilier. Et les fermiers ont dû aussi partir, donc elles ont cultivé les champs et se sont occupées du bétail. Beaucoup ont aidé à la soupe populaire ou dans les associations caritatives. Et en plus de tout ça, elles devaient continuer à s'occuper des enfants et de leur maison. Et aussi faire des enfants, parce que à l'époque, voilà, il y avait beaucoup moins de naissances. Donc on les encourageait vraiment pendant les permissions à procréer, quoi. Il y a plein d'affiches plutôt marrante à ce sujet-là. Je vous conseille de voir ça. Donc, bizarrement, ce qu'on a beaucoup retenu de cette période, c'est le stéréotype de l'infirmière et du soldat. Sur les cartes postales, sur les jouets pour enfants, les peintures, les affiches, on retrouve une infirmière et un soldat blessé. L'image de la femme maternelle, douce et attentionnée, qui a pris le dessus sur l'image de la femme au boulot. Bien sûr, beaucoup de femmes ont soigné les blessés, certaines n'ayant aucune notion de médecine. On oublie à quel point c'était un métier stressant, fatigant et souvent traumatisant. Et je ne veux pas diminuer le service qu'elles ont rendu. Mais voilà, toute cette partie-là du métier, on n'en a pas trop parlé. Mais voilà, elles n'étaient pas les seules à participer. Et étonnamment, c'est ce qu'on a vraiment retenu de cette période. Donc dans les autres rôles que les femmes ont joués, on peut aussi citer les marraines de guerre. Ça, c'était un truc que je ne connaissais pas. En fait, dans les tranchées, les maris et les pères gardaient le moral grâce aux correspondances qu'ils tenaient avec leur famille. Il y avait un service postal qui était mis en place et les lettres étaient attendues avec beaucoup d'impatience. C'était vraiment le moyen de garder le lien avec ses proches. Mais certains hommes n'avaient pas ou plus de famille. Donc des femmes appelées marraines de guerre leur envoyaient des lettres, les encourageaient. Elles entretenaient vraiment une correspondance avec eux pour les aider. Puis il y a eu aussi les prostituées qui ont permis aux troupes de, entre guillemets, garder le moral. Il y a eu des bordels qui étaient organisés dans les tranchées pour canaliser les pulsions des poilus, on va dire. Une fois...
des poilus, ouais. Du coup. Ouais, c'est
ça. Joli.
Ouais, ouais.
Donc une fois que la guerre a été finie, les hommes ne se sont pas gênés pour envoyer les femmes à leurs casseroles. Beaucoup voyaient leur travail d'un mauvais œil. Ils s'inquiétaient de voir cette nouvelle concurrence sur le marché du travail. Et puis surtout, ça a remis un modèle de fonctionnement en question. Parce que si elles étaient capables de travailler à leur place, qu'est-ce qui les en empêchait de le faire, en fait ? Quelle était la légitimité des hommes de les en empêcher ? Puisqu'elles avaient prouvé qu'elles en étaient capables. Ils nous ont fait une petite crise identitaire et ça a un peu secoué leur masculinité. Mais ça nous aura quand même aidé pour la suite. Certaines études universitaires ont été plus fréquentées par les femmes par la suite. On a par exemple vu les premières avocates arriver dans l'entre-deux-guerres. Ça a aussi donné un coup de pouce à nos droits de vote. Peu après l'armistice, une loi est passée nous autorisant à voter et à nous présenter aux élections communales. Seulement communal, faut pas déconner. Mais il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le suffrage universel arrive. Et puis là-dedans, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il y avait aussi toutes les petites inégalités salariales qui étaient déjà en train de pointer leur bout de leur nez et qui on a les restes aujourd'hui, quoi. Donc ça a commencé déjà à ce moment-là. Quand tu étais avocate, tu gagnais déjà pas mal moins qu'un avocat. Mais si ce sujet vous intéresse, je vous conseille l'exposition Gender at War au musée de la Fonderie à Bruxelles jusqu'au 21 octobre. Elle vous apprendra tout dans les détails sur les rôles des hommes et des femmes dans la société européenne pendant cette période troublée.